Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille. On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Celui qui l'a dit et qui l'était, justement, c'est un peu planté de continent. Bon, rien de grave quand on y pense, puisqu'il a tout de même découvert quelque chose. Il était surtout curieux, émerveillé. Finalement, on se dit que c'est un petit peu ça qui compte, même quand on est sur un gros bateau et qu'on découvre l'Amérique ou autre chose. Comment tenir le cap dans un océan de tempête? Ça, c'est une question. Peut-être en sachant d'où l'on vient, d'abord. Ce qui nous aide à manier la barre avec souplesse, fermeté, humanité, quand les vagues sont trop hautes et font rage et nous font mal, finalement. En 2016, on a un peu tous eu le sentiment d'être submergés, tout le temps. Trop, souvent, mal de mer, porte qui claque, fatigué, à l'abordage, dite 49-3. Et pourtant, là où il y a de l'amour, il ne fait jamais nuit. C'est un proverbe africain, je crois, qu'il dit, puis mon papa aussi. Surtout quand au bout du tunnel, on aperçoit le sourire d'un ami, ou de Saint-Exupéry, qui nous manque beaucoup. On aurait juste envie de lui dire « Antoine, reviens maintenant, tout de suite ». Mon invitée est une sorte de phare, justement. Bon, plus qu'un phare, parce qu'elle ne brille pas que la nuit, le jour aussi. Et quand elle rayonne, ride espiègle au coin des yeux d'une profondeur à laquelle on ose enfin faire confiance. C'est un petit peu le beurre salé de la Bretagne et l'huile de Provence qui nous envahissent. Quand elle marche à petits pas vers ses étudiants pour en faire des géants, c'est merci qu'on a envie de lui dire, parfois d'ailleurs bien des années plus tard. Et quand elle publie chez Gallimard les lettres entre Malraux et Camus, deux géants de papier au cœur immense, c'est encore qui nous vient à la bouche et à l'esprit. Alors parlons, lisons, écrivons, échangeons et crevons ce silence comme un crayon libre qui transperce les frontières de papier pour laisser place aux fous et à la lumière qu'ils laissent traverser de leur corps et de leurs âmes. Fini d'être à 7, bienvenue en 2017.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Sophie Doudé.
Bonjour Mélanie.
Ça va?
Oui, ça va. Et vous?
Vous reconnaissez dans ce que je dis?
Non.
C'est trop beau.
C'est trop beau, mais j'aimerais me reconnaître. Parce que j'aimerais ressembler à ce que vous avez donné comme portrait.
Pourquoi ce serait ce portrait-là d'une professeure, d'une prof de culture G ou d'une prof tout court, parce qu'on s'en fiche en fait, qui donne envie de lire à ses étudiants et qui donne envie de continuer, ça ne vous plaît pas?
Bah si, ça me plaît, mais si j'étais déjà arrivée au port, j'aurais plus de chemin à faire. Donc je préfère être en haute mer et continuer à jouer les phares de mes étudiants ou essayer en tout cas de gouverner tant bien que mal le navire de l'éducation nationale.
Donc ça veut dire qu'un phare, vous reconnaissez quand même un peu?
Des phares, j'en ai, alors j'aimerais peut-être un jour en être pour... humblement, d'abord pour mes enfants, pour mes proches et peut-être pour mes étudiants, à condition de ne pas trop éblouir.
Ah, parce qu'un phare, ça fait trop de lumière de temps en temps?
Ben, disons qu'un phare, déjà, ça ne doit pas s'éteindre, donc c'est censé quand même de temps en temps être au repos quand c'est un être humain. Et puis si on regarde trop la lumière du soleil ou la lumière tout court, artificielle, bah on peut être ébloui, aveuglé ou plus, perdre son chemin. Donc il faut que la lumière éclaire, pas qu'elle aveugle.
Ou pas qu'elle brûle.
Pas qu'elle brûle. En même temps, les feux qu'on allume, c'est sans doute les meilleurs. C'est ce que dit Montaigne, non, me semble-t-il. On a dû donner ça en partiel de culture G un jour. Donc ouais, les feux, ça brûle, ça dévaste, mais ça brûle au fond du cœur, ça dévore. Tant qu'on n'y met pas des bibliothèques dedans, tout va bien.
Non, je parlais d'un phare parce que c'est aussi la figure de plein d'auteurs, en fait, quand même, quand on y pense.
Oui.
Pas ben. Victor Hugo dans tout ça?
Alors, Victor Hugo pour le poète mage, guide, surtout Baudelaire, les phares dans Les Fleurs du Mal. C'est un bohème magnifique où Baudelaire fait la liste non exhaustive des peintres qui l'ont ému, des gens qui l'ont guidé, et surtout finalement abouti à une réflexion sur la fonction de l'artiste, sur la fonction de l'art. Et moi, j'adore les dernières strophes. En général, je les cite dans mon cours sur l'art, ou je dirais au tout venant à mes étudiants un peu ébahis ou endormis, puisque en fait, ils comparent les œuvres d'art à des sortes de bateaux qui viennent mourir au bord de l'éternité des dieux. Alors, il dit que ces bateaux sont des sanglots, mais que c'est en même temps des témoignages de la grandeur, de la dignité humaine. Et si on veut retrouver les deux auteurs qui nous lient, Camus et Malraux, eh ben, Baudelaire a servi de phare à ces deux hommes, et surtout, finalement, cette conception de l'artiste les a guidés tout au long du XXe siècle.
C'est marrant parce que du coup, dans l'instant 2, sur Radio Grenu, on expérimente tout le temps. On a eu des émissions dans un train, on a des émissions en studio aussi. Là, on est quand même dans un super joli lieu, avec un super joli bouquin, le vôtre, on en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est quand même une correspondance entre Albert Camus et André Malraux, et vous l'avez déjà cité parce que vous faites un peu la prof là quand même. Est-ce que vous êtes toujours prof tout le temps? Est-ce que vous vous sentez toujours prof tout le temps?
Non, prof, pas tout le temps, avec mes étudiants sans doute, parfois avec mes enfants, il ne faudrait pas. Maintenant, prof, c'est aussi transmettre, c'est partager, c'est faire découvrir des lectures, les découvrir aussi, apprendre... et lire les livres qu'un jour on vous offre, parce que précisément vous avez été un professeur et qu'on a envie de vous étonner ou de vous dire « moi aussi j'ai quelque chose à vous faire lire ». Donc si prof c'est transmettre, partager, aimer l'art, la beauté et l'ouvrir aux autres, oui on est souvent prof, mais pas uniquement avec un titre, un diplôme et en rentrant dans une salle de cours, on peut l'être à tout moment.
On est où là, Sophie Doudet?
Alors on est à l'Oppidum d'Entremont.
Vous n'étiez jamais venue, non?
Non, je passe tous les jours devant pour rentrer chez moi et aller à mon travail. C'est un peu un gros rêve avec ma fille qui pense qu'il y a un trésor dans cette montagne. Donc je suis dans la montagne de ma fille. Et donc je pense que je vais revenir le week-end prochain avec elle pour qu'on cherche le trésor. Donc c'est magnifique.
C'est marrant parce que ouais, on est sur sur l'Empire romain. Enfin bon, là, il est un petit peu en ruine quand même.
Oh, bah, il y a les bases. Hein.
Ouais, il y a les bases. On vient aux bases et on est entre, vous l'avez dit, entre votre travail et votre domicile. On va le faire simple. Il y a la Sainte-Victoire à gauche, là-bas, magnifique. Il y a un petit vent sympa. Il y a la pluie qui va pas tarder à arriver quand même. Mais il y a du bleu.
Il y a du bleu et puis il y a des couleurs d'automne, d'hiver bientôt.
Oui, c'est ça.
Et donc,
pourquoi vous n'avez jamais pris le temps de vous arrêter ici, par exemple?
Parce que j'ai manqué de curiosité, que je ne savais pas que c'était aussi beau. Manqué de temps, affreusement, de temps. En tout cas, finalement, c'est très très bien choisi, Mélanie, parce que Camus n'est pas venu ici, même s'il habitait dans la région, à Lourmarin. Mais par contre, j'imagine, j'y suis jamais allée, mais que Tipaza, qui est un endroit qu'il a beaucoup visité en Algérie, qui est une ville grecque et romaine, ressemble peut-être à ça. Bon, alors il n'y a pas la Sainte-Victoire, mais en Algérie, il y a le Chénois, qui est la grande montagne qui se dessine dans l'horizon. Et bon, là, il y a la mer en Algérie, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Mais il y a le
Marseille,
ciel.
Non, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Alger, à Marseille.
Oui.
Marseille et Alger.
Ouais. Je sais pas. Enfin, je connais Marseille, mais pas Alger. Mais
j'imagine. C'est intéressant, parce que vous dites, je connais pas Alger, mais je connais très bien Camus quand même. Enfin, c'est presque un ami, non? C'est pas devenu un ami. C'est pas les écrivains, il y a des auteurs sur lesquels on écrit, même si on écrit sur leur correspondance avec d'autres auteurs. Est-ce qu'ils deviennent pas des amis?
Alors, des amis, je sais pas, parce qu'un ami pour moi, c'est quand même réciproque. Je suis pas sûre que Camus il m'aime beaucoup. Bon, j'aimerais bien essayer de faire tourner les tables, mais bon. Donc, du coup, un phare plutôt. C'est-à-dire finalement quelqu'un qui éclaire, qu'on peut retrouver quand on veut, qui guide. Après, on est effectivement dans le voisinage d'un ami quand on ouvre ses livres. Alors, l'avantage, c'est qu'il trahit pas, contrairement aux amis. Il débarque pas à 3h du matin avec une bouteille de champagne pour fêter quelque chose. Bon, mais en revanche, il guide. Et surtout, il offre de la beauté à tous les instants. Et une beauté toujours différente.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Entre Camus et Malraux, est-ce qu'il y aurait un choix à faire?
Non.
Non,
je pourrais pas.
C'est pour ça que vous avez écrit sur les deux, ou sur leur lien, leur amitié, leur admiration, on sait plus trop.
C'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps et j'avais l'impression d'un ratage, d'une sorte de malentendu. Je me disais, mais pourquoi les deux hommes que j'aime se sont à ce point finalement, pas ignoré, parce qu'ils se sont rencontrés, se sont fréquentés, se sont écrits, sinon on n'aurait pas édité la correspondance. Mais il y a quand même une sorte de ratage, c'est-à-dire qu'on aimerait en fait que ces deux grands génies qui ont 10 ans d'intervalle soient des super copains, qu'ils échangent, ce qui a été le cas d'ailleurs au passage pour Camus avec d'autres amis, d'autres grands amis, Guillou, Char. Sans doute aussi le cas avec Malraux, même si c'était sans doute plus compliqué d'être dans le voisinage et dans la proximité de Malraux.
Et donc, il avait l'air commode quand même, André Malraux.
Malraux, c'était
il avait
pas...
une grande distance, non ?
C'était quelqu'un de très pudique. Et comme tous les gens qui sont pudiques, ils finissent par être renfermés, parfois ils repoussent. Il y avait quand même une dimension de représentation qui fait qu'il y avait une distance qui se mettait en place, sans doute pour Camus aussi. Je pense que Camus devait être impressionnant aussi, mais je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes tempéraments. Même si tous les amis de Malraux ont été absolument éblouis par son amitié, ont été touchés de sa gentillesse, de sa simplicité dans l'intimité. Mais bon, voilà, de toute façon, moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, ils étaient morts depuis longtemps, donc je n'avais que des textes, des pages, des livres, je n'avais qu'eux. En fait, non, j'avais l'essentiel. Et finalement, j'arrivais assez tard dans leur vie. Je dirais un peu à reculons même, y compris dans leurs manuscrits. Je les ai découverts pour retranscrire la correspondance, mais c'était la première fois. J'avais travaillé depuis pratiquement 25 ans sur Malraux, un peu moins sur Camus, mais je n'avais jamais vu des textes écrits de la main de Malraux, donc c'est quand c'est émotion. Je vois les premières lettres, j'en ai les larmes aux yeux, c'est émouvant. Et en même temps, on a l'impression d'être à la fois proche d'un secret, d'un mystère, et en même temps de s'éloigner. Parce que le grain sur la feuille, la lettre, l'encre, c'est parfois un obstacle pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire les mots qu'on voit écrits dans un livre de poche et qu'on lit à toute heure, à tout âge.
Et partout.
Et partout.
À l'oppidum d'Entremont, dans un bus.
Exactement.
Dans une baignoire.
J'aime pas trop lire dans les baignoires.
Où est-ce que vous lisez ?
Un peu partout.
Sur un comptoir.
J'aime bien lire au café, j'aime bien travailler au café. Je lis un peu partout. J'ai toujours un livre, même si je l'ai pas, si je l'ouvre pas, j'ai toujours un livre avec moi dans un sac, etc. Comme une sorte de temps, de capsule de temps que j'aurai à disposition, même si évidemment je peux pas en user. Donc j'achète souvent des livres en imaginant le temps que je rêverais d'avoir pour les lire. Donc, ouais. Et Entremont, c'est aussi Malraux, quand on regarde, parce que Malraux...
Là où on est, là, en ce moment.
Ouais, alors, je ne sais pas du tout, il faudrait vérifier si le ministère de la Culture a eu une incidence. En tout cas, Malraux a participé à la classement de la route du Toulonnais, qui est la première route de France qui est juste à côté à être classée. Mais par contre, Malraux, c'est aussi l'inventaire des monuments historiques, c'est la défense des monuments historiques, c'est la recherche de l'art, même si là, clairement, bon, il y a eu des statues... trouver à Entremont, mais bon là c'est des murs. Mais même ces murs-là, il faut les protéger.
C'est marrant parce que les murs, les ruines, c'est un peu ce qui reste quand tout fout le camp, c'est un peu comme un bouquin, celui qu'on a dans la main, non ?
Pourquoi ?
Je sais pas.
C'est ce qui reste quand tout fout le camp ou ça s'efface aussi ?
C'est vous qui posez les questions ?
Pour une fois.
ça s'efface, ça s'efface, mais le livre que j'ai dans la main, il s'efface pas, si, il va disparaître ?
Rien n'est éternel, à moins de croire en Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas et qui n'était pas du tout le cas de Camus et de Malraux. Donc si on veut rester dans le cadre rigoureux des deux auteurs, on va oublier l'éternité, on pourrait parler d'intemporel en revanche.
Oui.
C'est ce que Malraux développe, l'idée que des choses demeurent malgré la mort des hommes, malgré leur faiblesse ou leur grandeur.
On peut croire aux constellations aussi, c'est un joli mot.
Oui.
C'est un très joli mot que vous employez dans l'avant-propos, que je lis parce que j'ai pas eu le temps de lire tout le livre. J'ai pas eu la capsule de temps pour le finir. Je suis honnête au moins. Vous dites surtout une constellation d'amis qui se parlent, s'entraident, s'envoient, corrigent leurs manuscrits, dînent, rient, font la fête ensemble et parfois se déchirent. C'est ça l'amitié pour vous ? Est-ce que ça peut être résumé à cette phrase ?
Oui. Je pense qu'on pourrait la compléter, bien sûr. Mais constellation, pourquoi ? C'est un beau mot. Parce que ça fait penser aux étoiles, que ça fait penser aux météores aussi. Mais constellation, parce que c'est pas deux amis, c'est tout un univers, cette période qui est celle des années, qui va en fait de la fin des années 30 au début des années 40, c'est des tas d'amis qui vivent dans les entourages de Gallimard, qui vivent à Paris, qui vivent quasiment dans les mêmes quartiers. qui sont reliés à la fois par des femmes, des hommes, par des maisons d'édition, par des revues, par des passions communes. Et ça, c'est beau. C'est intéressant parce qu'il y a assez peu de lettres entre Malraux et Camus. Mais par contre, ce qui est assez intéressant quand on travaille sur ces deux auteurs, c'est qu'on commence à, on fait une enquête et on se rend compte qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises chez des amis, c'est des copains, qu'ils s'envoient des manuscrits, des cartes postales, et que même si ils s'écrivent pas directement, ils se tiennent au courant les uns des autres. Par exemple, à un moment donné,
ils prennent soin aussi.
Oui, voilà. Et ce qui est assez marrant, par exemple, enfin marrant, c'est plutôt triste, quand Malraux va perdre sa femme. Enfin, sa compagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Josette Clotis, Camus lui écrit pas. Il va le voir peu de temps après, ravagé à combat, enfin, visage ravagé, parce que cet homme dit bah, la mort d'un être aimé, c'est la foudre. Et on peut tous imaginer ce que ça peut être. Et Camus écrit à Guillou, il écrit à Jean Grenier, et il dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire pour aider André Malraux, les deux enfants, il avait deux enfants, restent orphelins, est-ce qu'on peut les aider, comment lui dire qu'on est là, alors que justement il est tellement pudique que son visage se ferme, qu'il avance droit et qu'il essaie de survivre à cette foudre. Et ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans les lettres, mais qui apparaissent dans la recherche entre les amis, entre les lettres échangées par ricochet dans la constellation.
C'est marrant parce que dans l'instant 2 sur Radio Grenouille, en général, on crée des constellations. Enfin, on essaie en tout cas. On essaie de créer du lien et de mettre des étoiles bout à bout pour essayer de vous en donner un petit peu aux invités qu'on reçoit. Et du coup, il y a une étoile qui a voulu vous dire des choses pour cette émission. On va l'écouter. Je crois que c'est une amie, il me semble. On l'écoute, on revient ensuite.
Parlez-moi d'elle.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
Sophie n'a jamais peur qu'il y ait trop. Trop de livres lus, trop de livres écrits, trop de rires, trop de gâteaux, trop de voyages, trop de bottines, trop de tzatziki, trop de copains à la maison, trop d'heures de cours, trop de fleurs dans le jardin, et même trop de tables. Sophie, il y a 7 tables dans ton salon. Parce que Sophie est intensément vivante et intensément généreuse. Avec André, elle partage l'amour de l'art. Avec Albert, elle partage le sens de l'engagement, de la fidélité, la droiture. Ne jamais oublier d'où on vient. Et avec Charles. Avec Charles, elle partage tout. Et elle arriverait presque à nous faire croire que l'amour peut durer toujours. Sophie, c'est une rivière qui chante. C'est un petit bal qui mousse de rayons. Sophie, c'est une fresque de Masaccio où les couleurs vives se mêlent à la pudeur. Un tableau du Caravage où le noir est baigné de lumière. Car, parfois, le visage solaire de mon amie s'obscurcit. Elle est arrivée au monde trop sensible et trop intelligente. Alors elle sait mieux que quiconque que la mélancolie est au coin de la rue. Sophie, Sophia, la sagesse. Ma douce amie dit, on ne vit qu'une fois et la fin est moche. C'est pour ça qu'il faut partir. À Florence, à Venise, en Bretagne. Anywhere out of the world. Mais toujours verichic.com. On ne vit qu'une fois et la fin est moche, dit mon amie. Et c'est pour ça qu'il faut aimer. Aimer à perdre la raison.
Parlez-moi d'elle.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
No comment. On vient d'écouter Roxane Anadim. Bon, je la connais un petit peu, hein, Sophie. On va tout dévoiler à l'Oppidum d'Entremont sur Radio Grenouille. Moi, je l'appelle Estrella. Estrella, en espagnol, ça veut dire étoile.
Mm-hmm.
Elle vous connaît bien, hein?
Oui. Oui. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà, c'est une amie. Ce n'est pas un ratage. C'est une rencontre. Ça fait partie des choses les plus merveilleuses qui me sont arrivées, de la rencontrer. Un jour à l'IEP, on se souvient encore des chaussures qu'on avait. Alors moi, ce n'était pas des bottines, pour une fois, c'était des jolis petits escarpins. Et depuis, on s'envoie des... Voilà, on partage tout, on s'envoie des SMS. Chaque fois qu'on a une chose à partager, même bête, on se l'a dit. Et voilà, je pleure.
Elle parle d'une grande table qu'il y a chez vous. C'est bien une grande table, ça permet de réunir plein de rencontres. Alors, il y en a peu qu'on retient à sa table ou pas?
Alors, ma table est toujours ouverte. J'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui ne s'appelle pas Charles, mais dont c'est le surnom, qui m'a appris à à ouvrir ma table, ma maison, mes portes, mon frigo, à tous les gens qui pouvaient venir, parce qu'il avait vécu dans un pays avec une famille qui ouvre toujours sa table et sa porte.
Lequel ?
L'Afrique, le Cameroun d'abord et surtout le Sénégal, puis après la Bretagne. Bon là, il faut fermer les portes des fois parce qu'il fait froid, il y a du vent. Mais au Sénégal, on a le droit de les ouvrir partout. Et par contre, il n'y a pas qu'une grande table. En fait, il y a plein de tables. J'ai une obsession des tables. Et donc, à l'époque où j'ai rencontré mon amie Roxana, je vivais dans un appartement avec 70 mètres carrés et je lui disais, je trouve que j'ai beaucoup de meubles. Et elle m'a regardé froidement en me disant, j'ai compté, il y a 7 tables dans ton salon qui doit faire à peu près 15 mètres carrés, ce qui était déjà bien. Et elle m'a dit, tu pourras en rentrer une 8e, je te connais. Et elle a raison. J'ai racheté un bureau, enfin, je sais pas, j'aime bien pousser les murs pour entreposer des livres sur les tables, par exemple.
Les amis, c'est ceux qui savent avant nous-mêmes ce qu'on va pouvoir faire, ou pas faire, ou mal faire, ou bien faire.
Les amis, c'est les gens qui accouchent vos désirs, qui savent lire ce que vous avez dans la tête avant même que vous l'ayez, parce que vous venez leur demander conseil. C'est aussi ceux qui, dans le regard, disent « Tu n'es pas tout à fait sur le bon chemin. »
Tu n'es pas tout à fait seule, non
ah,
plus.
Oui. Mais j'ai de la chance. Je crois que j'ai jamais été seule. Jamais. Parce que même le jour où je l'ai été, j'avais des livres. Et c'est autre chose que... Bon, c'est pas un être humain, hein, mais c'est autre chose. Et puis voilà, j'ai la chance d'avoir eu des parents... qui m'ont accompagnée une grande partie de ma vie, d'avoir eu des enfants qui ont pris le relais quand mes parents sont partis. Et surtout d'avoir rencontré, quand j'avais 19 ans, Charles.
L'homme de votre vie ?
Oui.
Il y a des phrases consacrées comme ça qui peuvent se réaliser, de la littérature à la vie.
Je ne sais pas, un de mes livres fétiches s'appelle Madame Bovary, donc je ne sais pas ce que... C'est peut-être un exorcisme.
Quand Roxana, elle dit... Elle dit, mon amie Sophie, elle est arrivée sur Terre trop sensible. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça aujourd'hui, en 2017 ?
On pleure quand on est heureux, quand on est ému par les amis, par les enfants, par la beauté. Un chat qui passe, je pleure. On pleure quand on regarde Lassie, chien fidèle à la télé. On a un cœur qui se brise quand... Anna, la reine des neiges, chante hurle, libérée, délivrée, et surtout on pleure quand des enfants fuient Alep, quand Palmyre est détruite. On pleure. On pleure et on avance. Et on essaie d'écraser les larmes sur les joues de son enfant en disant « Pourvu qu'elle pleure, moi. »
Et quand les autres nous disent que pleurer, ça suffit, que pleurer, c'est pas la mode, ou qu'être ému, c'est pas la mode, et que finalement la sensibilité, elle a plus sa place ou elle a pas sa place, on leur répond, ou on leur répond avec entendant le livre que vous avez publié chez Gallimard entre Albert Camus et André Malraux, et on leur met comme ça dans le nez. On fait comment ? On fait quoi ?
Je sais pas, après la sensibilité c'est quand même une affaire de personne, donc bon voilà, on n'essaie pas, c'est pas un déversoir non plus, hein. Je pleure quand il n'y a personne. Enfin, presque, hein, Mélanie. Mmh. Mais l'envers des pleurs, c'est la révolte. Hein. On peut aussi pleurer de rage. Pleurer, c'est pas forcément être impuissant. C'est à un moment donné, quand il n'y a pas assez de mots, dire qu'on partage des larmes, lacrymosa, stabat mater. Et après, on peut aussi parler. Mettre des mots sur les cris, protester, dire que ça n'est pas acceptable. Consoler aussi. Et après, y a des livres. Après, moi, j'ai pas la prétention ni de rentrer dans l'histoire, ni de rester avec des livres. Par contre, si un tout petit peu à ma mesure, j'ai réussi à amener des gens dans un livre et dans l'œuvre des autres, je me dis que voilà. On peut regarder la vie en 2017 en étant accompagné de livres. Il faut juste trouver les bons. Il y a des livres qui ne tiennent pas devant une tache de sang, devant les pleurs d'un enfant, devant la maladie. Il y a des livres, vains, des livres beaux qui vous divertissent. Et puis, il y a des mots, des livres, des engagements, des phrases qui reviennent et qui vous permettent d'y voir un peu plus clair. Donc, voilà. Il n'y a pas que des larmes, il y a aussi des mots.
Il y a des rires aussi.
Oui.
Et derrière, il y a du ciel, il y a des couchers de soleil, il y a des
arbres.
Il y a des arbres. Ouais. Il y a des feuilles qui tombent, mais qui sont très belles quand elles tombent, parce qu'elles ont une couleur quand même assez magnifique là où on se trouve. Et il y a aussi quelque chose, Sophie, à la musique. On a quand même oublié la musique. Ouais. La vie serait vraiment une erreur, non ?
Alors, oui, Nietzsche. J'ai un peu cité, parce que quand je dis Lacrimosa Stabat Mater, j'ai quand même dans la tête la fin du Requiem de Mozart, Lacrimosa, les dernières notes qu'il a écrites. Stabat Mater, bon, il y en a beaucoup. Il y en a au moins deux, moi, qui me transportent. C'est celui de Vivaldi, celui de Pergolèse. Oui, la musique, c'est un mélange, justement, entre ce qui est la sensibilité à fleur de peau, l'émotion, et en même temps un langage. Parfois des mots, quand on met des chants sur cette musique. C'est parfois aussi ce qui réunit. On le voit très bien d'ailleurs quand on est à des amis. On est parfois réunis par des chansons, par des airs, n'est-ce pas, Mélanie ? Par des guitares.
Par exemple, ouais.
Et ce qui est assez intéressant là, c'est de voir par exemple comment systématiquement, chaque fois que Malraux veut mettre de l'émotion dans ses romans, il finit où il met en scène, il essaie de suivre la phrase musicale. Donc c'est l'oraison funèbre de Jean Moulin, le chant qui va s'élever maintenant fut pour nous le chant du malheur, entre ici. Et il chante, quasiment, sa voix chante. Et puis, dans tous ces grands romans, il y a ce motif musical. Ce sont des musiciens, souvent, ces héros, ou en tout cas des gens qui apprécient la musique. Pour Camus, ça existe aussi, c'est peut-être moins systématique dans son œuvre, ce motif musical. Mais on peut aussi rappeler que Verlaine était là pour nous dire de la musique, rien que de la musique, et il parlait de poésie.
Donc, avant toute chose.
Avant toute chose.
Bah, dans l'instant 2, on va faire passer la musique avant toute chose, là, maintenant, tout de suite. Tout à l'heure, Sophie, il y aura un choix musical qui a été le vôtre, ou deux, on verra, parce qu'on aura le temps d'écouter. Mais pour l'instant, on voulait vous faire écouter le nôtre, dans l'instant 2. Avant ça, la chanson qu'on va écouter, ça s'appelle Coward, de Yael Naïm. C'est sur son album Holder, le dernier. Coward, ça veut dire lâche. Ça veut dire lâche. Et bien justement, avant de l'écouter, comment on fait quand on se sent lâche et que ni le rire, ni les pleurs, ni la couleur des arbres, ni la musique, ni la Sainte Victoire qu'on voit là-bas au fond, là, et les amis et l'amour n'arrivent à consoler ou à nous rendre courageux?
On attend. On attend que ça passe. On a le droit d'avoir des faiblesses. Et si on se sent trop lâche, des gens qui ont pris des décisions plus radicales. On peut remplacer la lâcheté, ou en tout cas le refus de soi, le dégoût de soi, par le don de soi. Je dirais qu'au moins on a deux solutions, à admirer des qualités qu'on n'a pas chez les autres, sans essayer de s'en prévaloir, mais en tout cas être capable d'admirer ce qu'on n'est pas capable d'être dans ceux qui sont grands. Et sinon, je dirais, on peut renoncer jusqu'à un certain point à vivre. Si la lâcheté, c'est un renoncement. Mais bon, là, tout s'éteint à un moment donné. On n'est pas obligé de réécrire l'histoire non plus et d'inventer des mensonges, en revanche. I miss my friends and my guitar, knowing I can travel far, but now I'm only standing here, completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward, 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 free to do whatever came to me, but
this craving to share. If only I could ever dare to care for someone else but me. If I were to create a three, but can I let go of the thrill, turn it into something real? But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a? How did I become a? How did I become a coward?
Ça va, Sophie?
Oui, ça va, et toi?
Bah oui, ah bon, je tutoie maintenant, d'accord.
Ah pardon,
non, mais c'est bien, on est intime depuis le entremont.
Bonjour, Mélanie. Non, mais comment c'est vous allez? Mais qui êtes-vous?
C'est moi. C'est bien, on s'est mis au chaud, ça fait du bien quand même, parce qu'il fait froid là-bas quand même. Hein.
Oui. Alors, ça te plaît? Pardon, ça vous plaît ici?
Mais non, mais on se dit tu du coup
on
maintenant.
On se dit tu, bon d'accord. Alors.
C'est accepté. Bon. Hein
oui.
Le thé, ça va, il chauffe bien?
Oui.
L'instant 2.
L'instant 2.
Prenez le temps de partager. Sur Radio Grenouille.
Dans l'avant-propos de ton livre, à un moment, il y a marqué une phrase qui est super. Je ne sais plus de qui elle est, de Malraux, de Camus ou de toi. Du coup,
un des deux.
Aucun des deux, aucun des trois.
Non, 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 un des deux sans doute.
Ah, ouais, on peut dire un des deux ou un des trois alors.
Ouais, peut-être.
C'est la passion. La passion, c'est et ça finit par prouver.
Ah oui. Alors c'est un mélange, c'est marrant. Au départ, dans Le Temps du Mépris, Malraux dit dans la préface, une œuvre peut mourir de la volonté de prouver. C'est-à-dire qu'une œuvre ne peut pas être un roman, un texte à thème. Sinon, ça tue le mystère de l'art, peut-être même le mystère de la beauté. Donc une œuvre d'art, c'est pas simplement un message, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Camus, à peu près à la même époque. Bon, on va reprendre Le Temps du Mépris, il va le monter en pièce de théâtre. Mais il dit sensiblement la même chose dans les textes qu'il propose dans les revues. Bon, il est étudiant, enfin, il sort de ses études. Et il dit à peu près la même chose. Il dit finalement, une œuvre meurt de la volonté de prouver. Et il faut toujours qu'elle passe par quelque chose qui est la fiction, qui est la métamorphose. Et une forme de... Bah, de le mot beauté est un peu galvaudé, mais l'idée... que si on a juste un message à donner, on peut l'écrire sous la forme d'un slogan. Donc,
on y revient, ou le transmettre alors. Ouais. L'art, si on le transmet, il reste vivant.
Oui, mais encore une fois, il vaut mieux qu'il le fasse par ses propres moyens, et il n'est pas absolument sûr que la mission principale de l'art, ce soit l'engagement politique, etc. Ça, c'est un de ses aspects, mais encore une fois, on pourrait passer par des articles de journaux ou par d'autres moyens. Donc si on passe par un roman, une pièce de théâtre ou de la poésie, ça veut dire qu'on parie sur un autre média, sur un autre intermédiaire. Et cet autre média, c'est le style, c'est la mise en forme, c'est la fiction, c'est l'imaginaire, c'est l'agencement des mots ou des notes, de telle façon à ce que le lecteur ou le spectateur atteigne ce message, mais soit aussi touché par d'autres éléments, dont ce qu'on pourrait appeler la beauté, la grandeur.
C'est marrant, tu parles de médias, de médiation, d'intermédiaire, parce que aussi la question de la correspondance, elle est intéressante, d'avoir choisi des lettres. Des lettres entre deux amis, on en a parlé, entre deux amis ou pas que d'ailleurs, mais parce que la question elle se pose quand même aussi des lettres. Moi je me pose souvent la question de ce qui restera, parce qu'on s'écrit plein de textos par exemple qui font office de lettres, on s'écrit des mails qui disparaissent parce que nos boîtes elles sont pleines et que du coup après on peut plus les garder. Et du coup, comment on fera par exemple dans. Comment une prof de français, de littérature, quelqu'un qui écrit et qui veut écrire sur des correspondances de gens connus bientôt, plus tard, comment ils feront, ces gens-là? Ils n'auront plus de lettres?
Alors, jusqu'à un certain point, bon, c'est sûr que la version papier, elle est quand même de plus en plus réduite. Après, je pense que les gens qui travaillent dans le domaine de la littérature, qu'ils soient écrivains ou universitaires, ont quand même le sentiment qu'il faut garder des choses. Donc ces lettres, elles sont conservées. Et toi, par exemple, quand tu reçois le texto de quelqu'un que tu aimes, tu ne l'effaces pas, jusqu'à un certain point. Après, il y a quand même beaucoup de choses, y compris dans les lettres, qui restent superficielles, et y compris dans les lettres de la correspondance entre Malraux et Camus. Bon, il y a deux, trois mots, bon, ça ne passe pas à la postérité, donc on les met parce que ça peut être intéressant, mais bon, parce qu'il faut être exhaustif, mais bon.
Parce qu'ils peuvent être un lien aussi, oui, entre les choses plus essentielles, non?
Oui, et puis ça raconte une histoire derrière, des relations, et puis après, tu peux toujours décrypter l'intitulé, cher Malraux, chez le Camus, quand on s'appelle par son prénom ou par son nom, enfin bon, il y a plein d'indices. Donc déjà, on peut conserver les SMS. Aujourd'hui, on peut faire des archives, on a des boîtes, des, des nuages, et on peut les garder.
Des clouds.
Des clouds. Et je sais qu'il y a apparemment des sites pour conserver et à la limite faire des sortes de livres, etc. Et après, je pense que les gens qui quand même aiment la littérature et l'art ont quand même un rapport un peu traditionnel, voire conservateur dans tous les sens du terme, à l'écrit. Au texte, donc évidemment on peut passer par l'ordinateur aujourd'hui, mais il y a quand même le sentiment qu'il faut garder peut-être pour certaines personnes des archives, des supports, et puis après peut-être que quand on écrit, bon alors quand on se drague aujourd'hui peut-être qu'on écrit des SMS, mais peut-être aussi que finalement il y a encore plein de gens qui écrivent des vraies lettres, des vrais mots, et puis après on peut garder des mails, on a tous des boîtes mails qu'on ouvre peut-être pas, hein, avec des dossiers interdits, mais quand il reste plus que ça de la personne, et ben on rouvre un mail parfois.
C'est marrant parce qu'il y a aussi il y a des lettres d'amour qu'on connaît pas parce qu'elles sont jamais envoyées, par exemple, voilà. Ça aussi, ou qu'on n'ose pas envoyer par la poste. Pendant que tu me sers un petit thé, Sophie, si tu veux bien, je vais aller te chercher. Ça c'est pas prévu non plus. C'est un, comment dire? Je veux dire que c'est un message, c'est un message vocal. C'est un message vocal qui a été laissé sur mon téléphone il y a 2 jours par une étudiante que tu as eue à Sciences Po et à qui j'ai dit, bah voilà, Sophie Doudet, c'est la prochaine invitée de l'Instant 2 sur Radio Grenouille. Et elle n'a pas eu le temps, parce qu'on manque de temps, elle n'a pas eu le temps de faire quelque chose et du coup elle m'a laissé un message. Je te le fais écouter?
Oui.
Sur mon répondeur, c'est marrant, de téléphone portable, de cloud, tu vois?
Oui.
Immatériel.
Oui.
Bon.
Bon. Mais il y a une voix quand même, un grain.
Attends, j'arrive. Hein.
D'accord.
Je peux te faire le thé? Oui, je veux bien. Oui.
Un moment, s'il vous plaît.
C'est, donc, Béatrice de Dieu, ça fait partie des élèves inconnus. Parce qu'en fait, quand je lui ai dit que pourquoi tu étais l'invité de l'Instant 2, au-delà du fait que tu sois quelqu'un de bien, mais que tu avais écrit un bouquin sur Malraux et Camus, elle m'a dit ça.
Coucou Mela, c'est Béa. Et ben, je t'appelle parce que j'avais envie de t'avoir au téléphone depuis le début de la semaine. On n'a pas réussi. Voilà. Concernant ton émission avec Doudet, moi je n'ai pas eu en cours. Enfin, j'ai eu en cours généraux, mais pas en TD. J'ai regardé un petit peu parce que j'avais pas lu ton mail. Enfin, j'avais lu en travers. J'avais pas compris que c'était pour aujourd'hui. Mais du coup j'ai rien préparé à t'offrir pour la faire réagir, si ce n'est que je suis en train de lire La mort heureuse de Camus, et c'est un livre qu'il a écrit en 1937, qui n'a pas été publié tout de suite, mais du coup qu'il a écrit avant tous les livres, tous les romans qu'on lui connaît, et qui est assez dingue, quoi. Qui est assez dingue, c'est une réflexion. C'est un roman qui pose une réflexion sur le bonheur et sur finalement la condition humaine. Est-ce que l'argent est, est un moyen ou une fin à l'accès au bonheur et je suis passionnée. Voilà, je suis passionnée par, par ce petit bouquin qui n'est pas très long, qui doit faire 170 pages. Et c'est une première écriture, tu vois, de Camille. C'est, il garde toujours son, son style un peu innocent tout en, tout en créant des personnages qui sont complexes et témoignent d'une, d'une vraie violence intérieure, quoi. Mais voilà, peut-être que tu pourrais aborder ce sujet-là avec Doudé, sinon, bah, prends le juste pour toi et à l'occasion, bah, ouvre, ouvre une page ou deux, c'est vraiment chouette, quoi. Écoute, tu me reviendras ça dans la journée si tu entends mon message.
Si j'entends son message, je l'ai entendu, son message. Après, elle parle d'Ibrahim Malouf, tout ça, de musique, tout ça, tout ça. Et ça aussi, c'est beau et on aurait des heures à parler de ça. Quand, je sais pas, Sophie, quand on est prof, qu'on entend ça, qu'on entend une sorte d'explication de texte sur un message vocal qui ressemble un peu à une lettre, autant à toi qu'à moi, et qui crée un peu un... des liens, quoi. Des jolis liens. C'est, déjà, ça fait plaisir quand on est prof. Je ne sais pas si l'explication de texte est bonne, mais en tout cas, elle a l'air d'être passionnante. Et passionnante parce que Camus, il est quand même, c'est quand même humain, quoi, tout ça. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui.
Bah, ce qui me plaît dans, dans ce message, c'est que bah, quand on est prof, on impose un peu des lectures. Enfin, on les propose, mais on les impose aussi. Et donc quand on parle d'auteur, on a toujours le secret espoir que c'est pas uniquement pour la dissertation de, du partiel ou le grand oral à la fin, et qu'on plante un peu des graines, et qu'après, bah, quand les élèves vont devenir des adultes, qui vont rentrer dans leur vie, bah, ils vont continuer cette histoire avec la littérature, avec les grands textes, avec, avec l'intelligence. Évidemment, on peut l'avoir sous d'autres aspects, mais bah, quand on entend après quelqu'un qui se lance bien, qui explique, qui dit aussi son émotion, son intérêt, sa, son éblouissement même, et ben on est heureux. On est heureux parce que, on, je dirais égoïstement, on pense que c'est pas moi qui suis responsable de ça, mais que, ben, que plein de gens ont, ont planté des graines et qu'elles poussent. Et surtout, bah, on est content parce que... Moi, je suis contente parce que bah, Camus, voilà. Camus, c'est quelqu'un qui est lu par le monde, qui est un des auteurs les plus traduits à l'étranger. Que quand on fait des conférences sur Camus, quand on prononce le mot Camus, bah, immédiatement, on a quand même des gens qui, dont le regard s'illumine, qui ont tous une histoire avec Albert Camus. On a tous une révélation, on a tous aussi des retrouvailles, ce que dit Béatrice, là, et des redécouvertes. Et tout à l'heure, tu me disais, bon, bah, j'ai pas fini de lire la correspondance, mais c'est une chance d'avoir plein de jardins à découvrir encore, de livres à ouvrir. C'est à la fois du temps, c'est du bonheur. Si on avait tous les lus, La chair est triste, et là, j'ai lu tous les livres. Si on avait lu tous les livres, bah, on n'a plus qu'à mourir, quoi. Donc, et Camus est inépuisable. Donc, La mort heureuse, c'est un livre magnifique. C'est un des premiers Camus, c'est une première écriture, mais c'est aussi une première écriture d'un autre livre qui va être plus tard à l'étranger. Et les premiers Camus, c'est génial. Comme d'ailleurs, au passage, les premiers Malraux, La tentation de l'Occident, c'est que, bah, rétrospectivement, on peut y reconnaître des tas de choses qui vont arriver plus tard. Et donc, c'est des très jeunes hommes dans les deux cas. Et en fait, c'est des génies déjà. Et alors, évidemment, rétrospectivement, c'est toujours super de reconnaître, enfin, c'est facile, hein, de reconnaître un génie a posteriori. Mais voilà, on y trouve la mer, on y trouve une grande maison, on y trouve des personnages qui ressemblent un peu à Camus, on y retrouve l'enfance. Et la grande question qui a été celle de Camus et moi celle de Malraux, et qui est celle de comment on est heureux dans la vie, comment on vit, comment on arrive à trouver un équilibre, comment on reste soi-même, comment on arrive à articuler le monde et soi. Et c'est des questions qui ont quand même plus fasciné Camus que Malraux.
C'est marrant parce que moi, mon histoire avec Camus, c'est une phrase, je crois. Pour se limiter à celle-là, c'est une phrase qu'une prof de culture G un jour m'avait transmise, je ne sais plus qui, je sais plus quand, je sais plus quoi. C'est s'affirmer dans le monde, c'est se distinguer. Je me trompe ?
Je sais pas.
C'est lui,
c'est ouais, je sais pas. C'est, ça me, c'est possible. Ouais, se distinguer au sens pas se séparer des autres, mais sortir, se distinguer aussi, c'est se choisir, exister, trouver qui on est. Après, reste à savoir comment... Est-ce que finalement, on s'affirme définitivement, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un travail de longue haleine. Après, Camus, on a des phrases et on a aussi des images. Et Camus, c'est aussi des paysages, c'est des personnages, c'est des cris. C'est un homme aussi, c'est des photos.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Sur Radio Grenouille.
Edgar Morin disait dans une émission le mois dernier qu'on avait besoin de convivialité, de gentillesse et de reconnaissance. On revient aux valeurs qui ne sont pas encore à la mode, non ? Qui ne sont toujours pas à la mode, comme tout à l'heure, la sensibilité.
Oui, alors les valeurs que cite Morin ne sont pas tout à fait celles qui sont défendues par... je n'ai pas dit qu'ils sont méchants, qu'ils ne sont pas gentils, hein, mais c'est d'autres termes qui arrivent. Fraternité, par exemple, pour Camus et Malraux.
Pour convivialité, pour Edgar Morin.
Oui, voilà. Après, générosité, je dirais plus que gentillesse, qui est peut-être plus politique ou religieux, en tout cas sacré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas hasard si des gens comme Saint-Ex, comme Camus ou Malraux, peut-être un peu moins, mais il faudrait, sont relus, parce qu'effectivement, on revient au début de ce que tu disais, on a besoin de phares, on a besoin de repères, de béquilles aussi pour avancer dans un monde qui est complexe, si on veut reprendre les termes de Morin. Peut-être aussi dans un monde qui est plus obscur et qui en même temps repose des questions identiques. Je veux dire, Camus, il a été confronté à la question du terrorisme en Algérie, Malraux jusqu'à un certain point, en tout cas il l'a imaginé en Asie, et après il a été confronté lui aussi dans le cadre de la guerre d'Algérie et de l'OS, puisqu'il a été enfin sa maison a été victime, et une partie des gens qui habitaient dans sa maison ont été victimes d'une tentative d'attentat. Donc c'est des questions qui ne sont pas nouvelles, même si elles ont des aspects qui sont, je dirais, plus modernes, plus médiatiques, plus amples, et sans doute plus religieux qu'il y a... Mais bon, la religion a remplacé la politique. Mais c'est sûr que ça nous aide. Ça nous aide jusqu'à un certain point. En tout cas, ça peut nous guider ou nous intriguer, ou permettre d'élargir un peu notre champ de vision d'interprétation. Après, il y a peut-être aussi des guides à chercher, ou en tout cas des idées à chercher dans le monde d'aujourd'hui avec des auteurs vivants.
Alors, oui, il y en a plein des vivants. C'est Réparer les vivants aussi, tiens, c'est un joli film, un joli livre. Enfin, un joli livre d'abord. Ça aussi, hein, c'est My List de Karangal.
Ça a été une très, très belle... Très belle découverte il y a 2 ans quand c'est sorti. Enfin, bon, c'est un des livres que j'ai le plus aimé récemment et que d'ailleurs j'ai mis entre guillemets au programme des lectures. Je l'ai donc proposé et imposé à mes étudiants qui ont été ravis. Et là, si tu veux, une dernière découverte, Partager nos défaites de Laurent Godet, qui est passé peut-être un peu trop inaperçu dans la rentrée littéraire et qui est un livre magnifique.
On peut réparer les vivants avec des gens qui ne sont plus là, mais qui savaient très très bien jouer de la guitare, par exemple, et qui avaient une très belle moustache. Mmh. C'est quoi le choix de ta chanson dans l'instant 2, Sophie ? L'un des choix ?
Alors, c'est Jean Ferrat, Si je mourais là-bas. Donc, le texte n'est pas de Ferrat, il est de Apollinaire, qui est sur le front, et qui écrit à sa fiancée, Lou. Et il dit, voilà, je vais mourir sur le front, et je te demande de te souvenir un peu de moi, et puis de m'oublier, et de continuer à être heureuse. Et il se trouve que cette chanson, mon mari et moi, Charles, donc, on l'aimait beaucoup, et qu'un jour, on a eu le bonheur d'apprendre qu'on attendait une petite fille. Et ce prénom, Lou, qui était peut-être un peu banal dans cette génération, il y a beaucoup de Lou dans la classe de ma fille, a une autre résonance depuis que finalement c'est dans la chanson de Ferrat qu'il y a son secret, le secret de sa naissance.
Le secret qui n'est plus un secret, le choix musical de Sophie Doudet dans l'instant 2 sur Radio Grenouille.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, oh Lou, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vallées, et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses. Rajeunirais toujours pour leur destin galant. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie.
On vient d'écouter Jean Ferrat et Sophie, Sophie Doudet, tu lances le riz.
Je fais du riz dans la machine à riz, tu sais, dans In the Mood for Love. À un moment donné, dans le film là, superbe,
la musique superbe.
Voilà, et il lui offre, ça vient de Hong Kong, son mari, tu sais, il a une autre histoire avec notre femme, et il lui offre un rice cooker. Et en fait, c'est ça, c'est génial, ça fait le riz tout seul, ça fait un riz asiatique qui se décolle. C'est trop beau.
L'instant 2,
instant 2,
sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
C'est hyper beau, ça, parce qu'en fait, dans ton livre, là, chez Gallimard, on rappelle, c'est pour ça qu'on est avec toi, chez toi, merci d'ailleurs, hein, dans l'instant 2. Je sais pas si Malraux et Camus ont mangé du riz un jour.
Ensemble, je sais pas. Après, alors, Camus, je sais pas trop, mais Malraux, il adorait manger. C'était un grand, grand gourmet. Et donc, très rapidement, il est quand même connu pour avoir eu sa table chez la Serre. Mm-hmm. Donc, il aimait beaucoup manger.
C'est marrant parce que du coup, j'aime bien dans l'avant-propos, il y a une phrase, je vais la lire. C'est Camus qui parle, je crois. Il dit « J'ai vu Malraux ». Ah non, c'est un autre. Ah non, c'est un autre. Qui est-ce qui parle, là ? Tu sais, j'ai vu Malraux déjeuner avec lui.
Oui, en fait, non, c'est Camus qui écrit pour la première fois quand il rencontre Malraux. Il écrit à son copain qui s'appelle Claude de Frémanville.
Voilà. C'est hyper beau ce qu'il dit. Il dit « J'ai vu Malraux déjeuner avec lui. Il a tes yeux et un certain air de toi ». Un peu plus maintenant sans doute, puisque tu as maigri. C'est hyper joli, ça. Et après, il continue, il dit « J'ai vu en séance secrète son film sur l'Espagne, j'en étais bouleversée. » Et là, il y a une très belle phrase, donc de Camus, c'est ça hein?
Oui.
« Quelle joie de pouvoir admirer quelque chose de tout son cœur. » Et là, on revient à ce dont on essaie de discuter depuis, je ne sais pas combien de temps maintenant. Non. Il y a joie, il y a bouleversé, il y a déjeuner. Et il y a cette petite phrase qui dit tout quand on parle à un ami aussi. Il a un certain air de toi, c'est adorable en fait. C'est juste adorable.
Oui, parce que c'est un peu une transmission. Le premier article que Camus va écrire sur Malraux, c'est Claude de Frémanville qui a créé une sorte de petite revue étudiante. Il écrit pour lui. Donc ils sont vraiment très amis à l'époque. Et puis, c'est un copain qui dit il m'arrivait quelque chose d'incroyable et je voudrais le partager avec toi. Donc il envoie une lettre. Camus écrivait beaucoup et il écrivait très très bien. Il arrivait à mettre des mots sur justement ce cœur qu'il admire. Mmh. Qu'il admire. Et voilà, c'est la première fois qu'il a vu Malraux. Il a vu son maître. Hein, il
a 20 ans de plus que lui.
Non, ils ont 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Sauf qu'évidemment, quand Camus rencontre Malraux, c'est les années 30. Donc Malraux, c'est le chef de l'antiflachisme, celui qui va aller en Espagne, celui qui a eu le prix Goncourt. Enfin bon, voilà, il a une trentaine d'années, il est beau, il est parisien, il est cosmopolite, il est extraordinaire. Et Camus,
il a tout pour plaire, quoi.
Oui, et puis pour fasciner. Et Camus, il est au tout début, il écrit, mais il est en Algérie. En Algérie, c'est pas la même chose. Il a été malade. Enfin, c'est quelqu'un qui a découvert je dirais relativement peu de temps avant qu'il avait la tuberculose. Et c'est quelqu'un qui espère mettre ses pieds dans le sillage d'un Malraux ou d'autres écrivains de l'époque, mais qui évidemment n'a pas du tout la même stature à l'époque. Donc c'est incroyable. Tu rencontres quelqu'un que tu as admiré et tu l'as en face de toi et tu peux discuter d'égal à égal. Parce qu'une des qualités quand même de Malraux, c'était quand même systématiquement de se mettre... alors c'était relativement facile pour Camus d'être au niveau de Malraux, mais de mettre à l'aise les gens et de les mettre à son niveau.
À sa portée.
Et donc l'expression favorite, c'était comme vous le savez, donc les trois quarts du temps, en fait, on ne savait rien. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait je pense qu'il y a eu vraiment un dialogue.
Entre deux.
Ce qui explique que quand Camus va envoyer le manuscrit de l'étranger, que Malraux aura le manuscrit de l'étranger de Camus, il le lira avec attention. Et là, évidemment, je pense que là, il y a la vraie rencontre. Mmh. C'est-à-dire que Malraux rencontre enfin Camus.
Qu'est-ce que tu mets derrière le mot rencontre alors ? Le verbe se rencontrer, ça veut dire quoi pour toi, Sophie ?
C'est se reconnaître. C'est reconnaître aussi des idées, des préoccupations communes, le rapport à l'absurde, le rapport à la justice. Il ne faut pas oublier que Malraux, il a été mis en procès, donc le procès de l'étranger ne lui est pas étranger. Et donc il y a une rencontre qui est une rencontre intellectuelle. Et ça se voit très bien d'ailleurs dans la lettre que Malraux envoie à Camus à ce moment-là. Il dit il y a plein de choses dans votre texte qui correspondent à mes préoccupations du moment. Donc il y a une reconnaissance. Et là, c'est le début de... sinon d'une amitié, d'une relation. Et là, on voit très bien Malraux qui défend les intérêts de Camus et qui va négocier auprès de Gallimard les aspects les plus favorables du contrat et qui va essayer de lancer ce jeune homme. Et ce qui suppose une forme de désintéressement. Mmh. Et aussi, c'est la rencontre avec un génie. C'est-à-dire que Malraux, il reconnaît le génie de Camus. Alors, il le reconnaît.
C'était l'inverse jusque-là. C'était Camus qui admirait Malraux à un point de vouloir le rencontrer, déjeuner avec lui et juste dire... Oh, c'est incroyable. Mm-hmm. En fait, j'ai rencontré mon idole, on peut dire ça comme
c'est ça
aujourd'hui.
Il y a un peu de ça, ouais.
Et là, il y a un renversement, pas de pouvoir, ça, parce qu'il n'y a pas de pouvoir entre eux, mais d'égal à égal, c'est ça, tout à coup.
Égal à égal, peut-être pas, parce que y a aussi des formes de narcissisme chez Malraux, mais il y a aussi ce désintéressement qui sait reconnaître l'intelligence, les idées, le style dans l'autre. Ouais. Voilà.
L'instant 2.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
On est toujours dans la cuisine, en fait, de Sophie Doudet, l'invitée de l'instant 2 qui... que je tutoie maintenant, parce que finalement, on est quand même rentré chez elle, on a forcé un peu la porte. Sophie, on va devoir finir cette émission. Je suis désolée. Toutes les bonnes choses ont une fin. Comme votre livre. Ton livre, il y a combien de pages ?
Je sais pas. Attends, on va regarder.
Il est édité chez qui ?
Ça, c'est chez Gallimard, ça je sais. Mais j'ai un problème avec les chiffres, en fait. Mon âge, mes numéros de téléphone. Ça dépend si tu comptes les pages importantes ou non. On va dire à peu près 140 pages.
On compte toutes les pages.
Les notes de bas de page, tout ça, c'est bon, assez important. Mais... Allez, 152. Okay.
L'instant 2. Sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Eh bien voilà. Merci pour la tendresse de la correspondance de Malraux et de Camus, pas que, parce qu'il y a plein de choses aussi. Mais la tendresse, c'est un joli mot, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est souvent un mot galvaudé, parce que ça serait finalement une dégradation de l'amour, et au contraire, c'est son point d'aboutissement. Merci à toi, Mélanie. Je voulais te dire que la graine était devenue une plante extraordinaire, un arbre solide, avec plein de fleurs. Voilà, je suis contente d'avoir passé du temps entre le soleil et l'ombre des feuilles.
Merci Sophie, au mois prochain, dans l'instant 2 sur Radio Grenouille.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.